VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 9 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Nigeria, l'armée promet d'enquêter sur les accusations de violation des droits de l'homme portées contre elle.
En RDC, les divisions au sein du Rassemblement de l'opposition bloquent l'application de l'accord de sortie de crise, estime la MONUSCO.
Le monde et les États-Unis doivent voir une action positive de la Corée du Nord avant un début de discussion sur la péninsule, a déclaré la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley.
Les tentatives d'abrogation du programme d'assurance maladie de Barack Obama s'avèrent ardues. L'aile droite du Parti républicain reste réticente au plan du président Trump et des leaders de la Chambre.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'armée nigériane dit qu'elle ouvrira des enquêtes sur les accusations de violation des droits de l'homme portées contre ses troupes, notamment dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Le point avec Michel Joseph.
Le chef d'état-major de l'armée de terre nigériane, le général Tukur Buratai, qui a annoncé la nouvelle mercredi à Abuja, a expliqué qu'une équipe a été mise sur pied pour conduire ces enquêtes. Celle-ci comprend des officiers en retraite et en service, ainsi qu'un membre de la Commission nationale pour les droits de l'homme. L'équipe examinera les accusations d'exécution sommaire, de détention arbitraire, de torture et de disparition forcée de terroristes présumés de Boko Haram, mais son mandat n'inclut pas le massacre de musulmans chiites en décembre 2015, a tenu à préciser le général Buratai. Selon une enquête de la Commission nigériane pour les droits de l'homme, datant d'août dernier, 347 personnes ont été tuées dans ces incidents, mais aucune sanction n'a été prise à ce jour contre les militaires impliqués. Amnesty International et des groupes indépendantistes tels que les militants pro-Biafra du Sud ont accusé les militaires nigérians de violation des droits des civils dans leurs opérations. Des accusations jusqu'ici rejetées par les autorités militaires nigérianes.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a estimé hier à Kinshasa que les divisions au sein du Rassemblement de l'opposition bloquaient l'application de l'accord de sortie de crise. Cet accord a été négocié sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Après la mort, le 1er février à Bruxelles, de son chef, Étienne Tshisekedi, le Rassemblement fait face à des divisions internes. Lundi, l'Église catholique avait recommandé vivement à toutes les composantes du Rassemblement de privilégier l'unité pour faire avancer les choses vers une cogestion pacifique entre majorité et opposition jusqu'aux élections prévues fin 2017.
Au Kenya, un député du centre du pays a été inculpé d'incitation à la violence pour avoir encouragé de récentes invasions de terres dans sa région. Incidents qui ont provoqué la mort de 8 personnes, dont un Britannique. Des détails avec Eddie Isango.
Mephile Mpourkel, député pour la circonscription de l'Équipe Nord, a été libéré après avoir été inculpé la veille et après avoir passé un jour en détention préventive, il a dû payer une caution de 2 000 $. Michel Mpourkel est mis en cause dans le meurtre dimanche d'un Britannique né en Afrique du Sud, tué dans son ranch alors qu'il inspectait les dégâts causés par les passages des éleveurs et leurs troupeaux. Le député est perçu comme l'un des hommes politiques jouant sur le peur des éleveurs pour encourager les invasions des terres à des fins électoralistes. Des milliers d'éleveurs, dont certaines armées, des lances et d'autres d'armes automatiques, envahissent des ranches et des réserves privées de la région de Laikipia sur les contreforts de Mont Kenya à la recherche des pâtures pour leurs chèvres, vaches et moutons alors que le pays est touché par la sécheresse. Des photos de jeunes portant des t-shirts avec la mention Team Limpurkel envahissant en janvier les ranches souillants où des logements pour touristes avaient été brûlés sont brandis comme preuve contre les députés. Au total, 8 personnes ont été tuées depuis décembre et 10 blessées dans ces incidents. La police a intensifié la lutte contre les éleveurs de Laikipia et 379 personnes ont déjà été arrêtées dans cette région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier une séance d'information à huis clos sur les derniers tirs de missiles balistiques nord-coréens, alors que la Chine appelle la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis à prendre des mesures pour éviter le pire. Gaby Dorsil nous en dit plus.
Après la réunion à huis clos hier après-midi, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a tenu un point de presse en compagnie de ses homologues de la Corée du Sud et du Japon. Selon la diplomate américaine, les récentes actions de Pyongyang et de son dirigeant Kim Jong-un devraient préoccuper tout le monde et les États-Unis doivent voir une action positive de la Corée du Nord avant que les discussions puissent débuter sur la péninsule. Nous avons vu un lancement en février, nous avons assisté à l'assassinat de Kim Jong-nam au moyen d'armes chimiques, ce que la Malaisie a signalé, et maintenant le lancement de plusieurs missiles balistiques. C'est quelqu'un qui cherche à attirer l'attention et qui veut provoquer une réaction, mais ce qui nous dérange, c'est que ces missiles sont tombés à moins de 200 000 marins du Japon. Ils ont dit que leur objectif est d'être en mesure d'atteindre les bases américaines au Japon. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère, a déclaré Nikki Haley. Le président Donald Trump a réaffirmé l'engagement ferme des États-Unis aux côtés des Japonais et des Sud-Coréens face à ce que la Maison-Blanche appelle les violations répétées des résolutions de l'ONU par la Corée du Nord.
Ici à Washington, le président Donald Trump et la Maison-Blanche ont lancé une offensive politique et médiatique pour vendre le projet républicain de réforme du système de santé et d'abrogation d'Obamacare, le programme d'assurance maladie de son prédécesseur. Mais l'aile droite de la majorité républicaine reste réticente. C'est ainsi que M. Trump a reçu hier soir les leaders d'influentes organisations conservatrices et dîné à la Maison-Blanche avec Ted Cruz, son ex-rival des primaires, sénateur du Texas, dont la voix est décisive.
En Irak, le groupe État islamique a subi un double échec hier à Mossoul, la perte de la tristement célèbre prison de Badouche où les djihadistes auraient exécuté des centaines de personnes et la fuite annoncée de son chef, Abu Bakr al-Baghdadi. C'est à Mossoul que ce dernier avait fait sa seule apparition publique en juillet 2014, peu après la prise de la deuxième ville du pays par ses combattants.
Les États-Unis ont déployé une batterie d'artillerie des Marines en Syrie pour appuyer l'offensive sur Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique, ce qui marque une nouvelle inflexion dans la mission des quelques 500 soldats américains dans le pays, a indiqué mercredi un responsable américain selon l'AFP. Ce responsable confirme ainsi des informations parues dans le Washington Post.
Manifestation de femmes anti-Trump aux États-Unis, manifestation monstre contre les violences faites aux femmes à Madrid et en Amérique latine, la journée de la femme a pris un tour très politique hier. Entre 3000 et 5000 personnes à New York, 2000 à Los Angeles et plusieurs centaines à Washington ont manifesté pour cette journée rebaptisée aux États-Unis. Une journée sans femmes, ces dernières ayant été appelées à ne pas travailler pour marquer le coup.
Et ce mouvement a été particulièrement bien suivi à Alexandria, en banlieue de Washington, où toutes les écoles ont été contraintes de fermer en raison du manque d'enseignantes, Morgane Guiriec.
Il faut que ce soit gênant pour être efficace. Devant l'avalanche inhabituelle de demandes des enseignantes souhaitant toutes prendre congé de manière exceptionnelle mercredi, les écoles d'Alexandria sont restées closes. Sur les 1400 enseignants de la ville, plus de 300 avaient demandé à prendre leur journée, estime Helen Lloyd, directrice de la communication pour les services scolaires d'Alexandria, citée par l'AFP. C'est sans précédent pour nous. Nous n'avions jamais vu autant de personnel demander un congé pour une même journée, note-t-elle encore. Malgré les désagréments nés de la fermeture des écoles, les parents soutiennent plutôt ce jour sans femmes, pour lequel plusieurs organisations aux États-Unis demandaient notamment aux femmes de prendre leur journée et d'éviter de faire du shopping pour appeler à davantage d'égalité et de justice pour les femmes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La SNEL, la Société nationale d'électricité en RDC, a averti « Si la baisse du niveau des eaux du fleuve Congo continue, la production d'électricité devra être réduite de moitié. » L'essentiel de la production en RDC est réalisé par deux centrales hydroélectriques vieillissantes situées sur le Congo, à 260 km en aval de Kinshasa, à côté d'une dizaine d'autres petites centrales disséminées à travers le pays. Un déficit de pluviométrie a été enregistré sur l'ensemble du réseau. Après le Gabon, c'est au tour du Cameroun de préparer un retour du FMI. Selon nos confrères de Jeune Afrique, une mission de l'institution de Bretton Woods s'est achevée le 7 mars en vue d'établir un programme triennal qui s'étalerait jusqu'en 2019. Si le Gabon a opté pour une facilité élargie de crédit, rien n'a filtré sur l'option ou le montant du prêt qu'accorderait le FMI au Cameroun. Ralentissement de l'économie en Afrique du Sud. Selon le Bureau national des statistiques, le recul des deux secteurs clés de l'économie a entraîné une croissance négative. La baisse de 11,5% de la production de l'industrie minière a été le principal facteur. Au dernier trimestre 2016, l'économie sud-africaine s'est contractée de 0,3%.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, malgré son exploit au match aller 4-0, le Paris Saint-Germain a sombré à Barcelone. Une lourde défaite 6-1 ce mercredi lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, le club catalan qui entre dans l'histoire de cette Ligue des Champions, puisque tenez-vous bien, c'est la première fois qu'un club réussit en phase à élimination directe à remonter un tel retard après avoir perdu 4-0 à l'aller. Chapeau aux Catalans. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Borussia Dortmund s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à une belle victoire 4-0 sur Benfica. À noter le doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.
Et ce jeudi, les huitièmes de finale de l'Europa League.
Oh oui, tout à l'heure, Manchester United de José Mourinho va défier Rostov. Choc germano-allemand entre Schalke 04 et Mönchengladbach. En Belgique aussi, le derby entre la Gantoise et Genk. Enfin, l'autre rencontre importante de la soirée opposera Lyon à l'AS Rome.
Ibenge arrête avec les Léopards de la RDC.
Oui, Florent Ibenge ne prolongera pas son contrat en tant que sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo. Il n'entraînera pas non plus la sélection locale pour le CHAN 2018. Le technicien congolais l'a fait savoir ce mercredi à Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, arrivé à la tête du staff technique de l'équipe nationale en août 2014, en remplacement de Claude Leroy. Florent Ibenge a terminé 3e de la CAN 2015 avant de remporter le CHAN l'année suivante au Rwanda avec les Léopards locaux.
Le ministre des Sports du Mali dissout la Fédération malienne de football.
Cette fédération est opposée au collectif des clubs majoritaires de la première division. Ces clubs ne sont pas d'accord avec les sanctions prises contre leurs représentants par la fédération. Cette décision qui intervient avant celle du tribunal arbitral du sport qui doit rendre son verdict sur la crise du football malien. On fait le point avec Kassim Traoré.
Le ministre malien des Sports met fin à une longue crise que traverse la Fédération malienne de football. Le ministre va mettre en place un comité provisoire chargé d'organiser, de gérer, d'animer un nouveau bureau fédéral pendant 12 mois. Pendant ces 12 mois, le comité doit réunifier la famille du football malien, organiser une nouvelle assemblée générale élective, professionnaliser le championnat national de football, mais surtout de trouver des solutions à la question d'encadrement des équipes nationale du Mali. Surtout que celle-ci enregistre de mauvais résultats. Comme illustration, il y a l'élimination prématurée des Aiglons maliens à la CAN Junior. En tout cas, la décision de dissolution prise par le ministre des Sports a surpris les membres de la Fédération malienne de football, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Brésilien Roberto Bianchi a été nommé au poste de sélectionneur de l'équipe nationale angolaise de football.
Âgé de 50 ans, Bianchi entraînait depuis l'an dernier l'équipe de Petro de Luanda. Il est le quatrième entraîneur brésilien à diriger l'équipe d'Angola. L'Angola, on le rappelle, ne s'est pas qualifiée pour la phase finale de la CAN 2017 au Gabon et pour les éliminatoires de la prochaine CAN 2019. L'Angola est dans le même groupe que le Burkina Faso, le Botswana et la Mauritanie. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA cette nuit, le championnat de basket nord-américain.
Chicago et Orlando, 91-98. Brooklyn Nets et Atlanta 105-110, Charlotte et Miami 101-108, New York Knicks et Milwaukee 93-104, Toronto et Nouvelle-Orléans 94-87, Utah et Houston 115-108, et les Clippers et Minnesota 91-107, Détroit et Indiana 98-115, Sacramento et San Antonio 104-114, Washington et Denver 123-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Revenons sur l'affaire Khalifa Sall, le maire de Dakar au Sénégal et cinq de ses collaborateurs qui ont été placés sous mandat de dépôt mardi pour détournement présumé de fonds publics. Pour les partisans de M. Sall, il ne s'agit là que d'un coup de force visant à l'écarter des prochaines élections, alors que la majorité présidentielle parle, elle, d'un litige purement juridique. C'est Dina Abagay, notre correspondant à Dakar.
Les partisans de Khalifa Babacar Sall se disent meurtris par l'incarcération de leur leader. Babacar Diop, coordonnateur national du mouvement politique ADK, est membre du cabinet du maire de Dakar.
Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est que tous les voleurs qui veulent vraiment s'en sortir, ils n'ont qu'à se rallier au parti présidentiel et vraiment tout est nickel chez toi. Le malheur aujourd'hui, être intègre, avoir des vertus et des valeurs n'a plus de sens au Sénégal.
Du côté de la majorité présidentielle, on estime que cette affaire n'a rien de politique. Abdou Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint du parti au pouvoir.
Les corps de contrôle de l'État, plus précisément l'IGR, a séjourné pendant 18 mois au niveau de la mairie de Dakar. Ils ont produit un rapport et ce rapport a été transmis au président de la République. Le président de la République l'a transmis au gouvernement. Et comme seule recommandation au niveau du rapport, le procureur nous l'a dit, c'était d'ouvrir une information judiciaire. Ce que les autorités judiciaires ont fait quand le Premier ministre a transmis le rapport.
Les partisans du maire de Dakar affirment eux que les inspecteurs généraux d'État n'ont jamais épinglé l'édile de la ville.
Aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils l'ont épinglé ont fait des investigations audites durant 18 mois sans trouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils le suivent pour des fonds politiques qui n'existent nulle part.
Le porte-parole du parti au pouvoir persiste et donne des preuves de la véracité des accusations à l'encontre du maire de Dakar.
Des factures fausses ont été produites et vous avez entendu la secrétaire qui a produit les papiers et le magasinier dire que ce sont des fausses factures pour justifier l'utilisation de ces fonds. Ceci n'enlève en rien qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence.
Au Sénégal, l'emprisonnement de Khalifa Sall est perçu par certains comme une cabale politique visant à écarter l'un des plus sérieux adversaires du président Macky Sall. Mais le camp du chef de l'État rejette toujours ces accusations. À Dakar, pour la Voix de l'Amérique, Sérina Abagay.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'université du Burundi passe des bourses généralisées à un système des prêts-bourses suite à un décret présidentiel signé le mois dernier. Les autorités expliquent que c'est pour responsabiliser les futurs cadres du pays. Mais bon nombre d'étudiants insistent pour que le président Pierre Nkurunziza abroge son décret, soulignant que de nombreuses familles n'ont pas les moyens de vivre dans la capitale Bujumbura, où les prix des produits de première nécessité ne cessent de flamber. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Il est 10h à l'université du Burundi, tout près de l'amphithéâtre de la faculté de droit. Les étudiants sont dans la pose traditionnelle. Interrogé, un professeur de droit pénal indique que la question du prêt-bourse va diviser les étudiants boursiers et non, et que l'on se dirige carrément vers la suppression de la bourse au Burundi. Dans leur pose, certains étudiants hésitent à s'exprimer, mais après maintes conciliabules, un groupe de trois étudiants délégués estime que le décret présidentiel du 16 février 2017 doit être abrogé pour l'intérêt supérieur des étudiants aujourd'hui démunis.
On trouve que ce n'est pas le pré-bourse, c'est la suppression de la bourse en soi. Nous n'aimerons pas ce projet qu'on soit mis en application. Nous sommes dans la situation très mal.
Nous constatons que c'est un système discriminatoire parce qu'un enfant de la famille pauvre bientôt va abandonner ses études. Il fallait que ce projet soit abrogé.
Ce n'est plus une bonne loi parce que compte tenu de la situation économique économique de nos chères familles, personne ne peut rembourser ses prêts-bourses. Nous demandons de veiller à abroger ce prêt-bourse.
Si le prêt-bourse est institutionnalisé dans bon nombre de pays occidentaux et américains, cet étudiant affirme que le Burundi ne va suivre le modèle des autres pays plus développés.
Si le Burundi veut imiter les autres pays, il faut d'abord vivre comme les autres pays. Mais au Burundi, nous sommes très en arrière. Alors comment on pourrait imiter les autres pays?
Ancien étudiant et cadre administratif à l'Université du Burundi, Emmanuel Bigirimana reconnaît que cette mesure sera dure à avaler pour les parents burundais, même si la mesure entre dans les nouvelles réformes instituées par les autorités burundaises.
En tant qu'ancien bénéficiaire de la bourse d'études, je comprends l'orientation politique. Mais l'essentiel consiste à expliquer. En tant que parent, ça devient dur pour le parent qui aujourd'hui paie difficilement ses factures. Mais c'est un choix du gouvernement, un choix lié au contexte. Le parent se trouve dans une situation de plus en plus difficile.
La ministre Geneviève Ndirahiche réussit en pari, là où d'autres ministres antérieurs avaient échoué. Cette question de prêt-bourse mettra beaucoup de temps pour son application effective dans un pays très pauvre, selon un professeur qui a requis l'anonymat. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Cameroun, le mariage précoce continue d'exister dans de nombreux quartiers populaires du pays, selon les associations de lutte contre les violences faites aux femmes ou de défense des droits des femmes. Ces ONG mènent aussi des campagnes contre ce fléau qui compromet la scolarisation des jeunes filles. Reportage au quartier Briquetry à Yaoundé avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap.
Nous sommes dans l'enceinte de l'école franco-arabe du quartier Briqueterie à Yaoundé. Quelques jeunes filles voilées s'apprêtent à prier. Elles ont entre 9 et 11 ans. À cet âge-là, certaines jeunes filles ont été mariées précocement dans le quartier Briqueterie. Le mariage précoce n'est donc pas un sujet nouveau aux oreilles de ces petites filles.
Ma camarade, parce qu'elle ne fréquente pas son père, dit qu'elle va aller au mariage.
Elle avait quel âge?
Elle avait 15 ans, 14 ans.
J'ai entendu que beaucoup de filles sont un peu désordonnées. C'est pour cela qu'on les envoie en mariage, pour qu'elles ne se gâtent pas dehors.
La liberté de ton de ces élèves sur le mariage précoce contraste avec celle de l'administration et du personnel enseignant. De l'école. Ici, le sujet est jugé très sensible. Il heurte les conceptions traditionnelles, voire islamiques, du mariage, nous confie hors micro une responsable de l'école. Du coup, c'est par le canal des associations que les dénonciations et le coût de certaines jeunes filles victimes du mariage précoce au quartier Briqueterie se font de plus en plus. L'une d'elles, basée dans ce quartier populaire, lutte contre les violences faites aux femmes. Ango Manga, directrice de l'antenne du centre à Yaoundé.
Les cas issus de la Briqueterie, le premier cas concerne une jeune fille que sa tante a envoyée islamiquement en mariage récemment au mois de novembre. Toujours la famille a profité du fait qu'elle ne connaît ni lire ni écrire pour lui demander de signer un papier qui était l'acte de mariage polygamique. Et l'autre cas, ils ont eu déjà 4 enfants, mais le monsieur est parti chez ses 2 premières épouses. Elle est retournée dans sa famille à elle avec les 4 enfants.
Pour espérer inverser la tendance, la sensibilisation des jeunes filles et parents d'élèves au sujet du mariage précoce qui s'est déporté dans une école publique située à la lisière du quartier Briqueterie. Madame Josie Berthe, directrice école publique groupe 1 des Koudou.
Il y a Plan et Afadep qui nous aident à travailler ensemble avec les infus de l'école pour éviter le mariage précoce. On les amène à comprendre que l'école est nécessaire plus que d'aller vite se marier.
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de jeunes filles préposées pour le mariage précoce?
Beaucoup. Il y a même une autre qui a quitté l'année passée, au moins elle est partie. À la fin de l'année, elle me disait qu'elle va se marier au mois de juin.
Et dans la vaste campagne de lutte contre le mariage précoce au quartier Briqueterie, les dignitaires musulmans ont été mises à contribution. Docteur Hayatou Mouamadou, responsable de la prédication dans la région du centre des 2 mosquées de Yaoundé.
Si on trouve certains cas, ça c'est la contradiction de ce qui est mentionné dans les textes révélés. Les imams, les prédicateurs, ceux qui portent le conseil et ceux dont les voix sont entendues ont toujours besoin de multiplier d'efforts sur la question, dans la sensibilisation d'un certain nombre de parents, d'être très rationnels sur cette question.
Reste à présent les pesanteurs de la pauvreté dans le quartier populaire de la Briqueterie, où parfois, pour rembourser une dette contractée par les parents, les petites filles sont données en contrepartie en mariage précocement. encourant ainsi une peine d'emprisonnement pouvant atteindre jusqu'à 10 ans selon la loi camerounaise. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on célèbre la Journée internationale des femmes avec un focus sur l'évolution des femmes dans le monde du travail. L'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, de revenir sur le courage et la détermination de femmes ordinaires ou non qui jouent un rôle dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Quelle place pour les femmes au cœur de la mondialisation et des révolutions technologiques? Quelles sont les nouvelles opportunités? Où en est leur autonomisation économique en Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Wikileaks a publié près de 9000 documents présentés comme provenant de la CIA et estimant qu'il s'agissait de la plus importante publication de matériel secret du renseignement jamais réalisée. Le site met en garde contre le risque d'une prolifération des armes informatiques ainsi exposées. Pour décrypter ces révélations du site créé par Julian Assange, Tatiana Mosso a joint Basile Nyon, directeur de BCCA Networks and Technologies à Washington.
Parcourir les documents, ça prendra énormément de temps. Vérifier s'ils sont authentiques, ça va être compliqué. Parce qu'il s'agit là de technologies de pointe. Et seuls la CIA ou les services de renseignement peuvent certifier que ce qui est dit est vrai, puisque ce ne sont pas des techniques répandues dans le public.
Est-ce que Wikileaks, qui a reçu elle-même une partie et qu'elle a décidé de rendre publique, est-ce que la CIA, pour l'instant, a réagi et comment?
Une agence aussi importante que la CIA ne peut pas suivre Wikileaks pour réagir à tout ce que Wikileaks dit. Si un jour la CIA doit se prononcer, à mon avis, ce sera devant le Congrès, mais pas dans le public, pas suivre une structure comme Wikileaks qui dit disposer de documents. Même s'ils exposent les documents, tout ce qui sera dit dedans n'a rien à voir avec l'activité qu'ils dénoncent. Parce que l'activité qu'ils dénoncent est plus logicielle que manuscrite.
Alors justement, selon toujours ce site, ces documents montrent que l'agence de renseignement a élaboré plus d'un millier de programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels pouvant soi-disant infiltrer et prendre le contrôle d'appareils électroniques. Est-ce que c'est possible selon vous?
C'est possible. Toute structure de renseignement qui a à cœur de protéger un pays donné est obligé d'être d'abord la pointe de la technologie logicielle et être obligé d'écouter par tous les moyens tout ce qui peut nuire à la sécurité de ce pays. Et ce qui est dit est possible. Je ne pense pas que si cela est vrai, que les États-Unis soient le seul pays à le faire. Je pense que toutes les puissances de la planète ont les mêmes attitudes. Il faut protéger la sécurité nationale et tous les moyens sont bons pour le faire. Je voulais juste dire ici qu'on vous parle souvent des objets connectés. Mais les objets connectés, c'est réellement... Pour toute structure de renseignement, c'est le meilleur gâteau qu'on puisse leur offrir pour pouvoir accomplir leur rôle d'information, d'écoute et de traque.
Alors justement, la célèbre agence est par ailleurs accusée par Donald Trump, comme les autres agences de renseignement américaines d'ailleurs, de faire fuiter des informations suggérant que certains de ses proches ont eu des contacts l'an dernier avec le renseignement russe. Quelle crédibilité accorder aux agences de renseignement, même si Donald Trump, qui est désormais le président et qui est censé avoir des débriefs de toutes ces agences-là, même si lui, aujourd'hui, accuse et met à mal leur fiabilité.
Les agences de renseignement sont si puissantes, les services secrets sont dans une telle attitude de recherche d'informations que tout le monde a peur de se sentir suivi, espionné, etc. Moi, j'appelle ça un peu l'espionnage. Tout le monde pense qu'on est suivi. Les gens n'ont pas le temps de suivre tout ce monde-là parce qu'ils ont énormément à faire.
Basile Nyon, directeur de BCCA Networks and Technologies à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.